L'occasion, une sorte de version sanctifiée d'un enterrement de vie de garçon. Dans quelques heures, je me marie avec Myriam. L'un de mes amis propose que chacun livre un conseil pour mon mariage. On fait le tour. Arrive le tour de mon meilleur ami qui est pasteur en Angleterre. Il explique. Mon conseil, tu ne comprendras pas tout de suite, pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. Mon conseil est simple. Sois bienveillant. Vous qui êtes mariés, vous savez qu'il avait raison. La bienveillance, c'est ce dont on a besoin pour un mariage réussi. Mais pas seulement. Aussi pour nos relations entre nous au sein de l'Église, c'est commandé pour nous dans Éphésiens 4 et Colossiens 3. Et cette bienveillance, on la trouve au sein de cette Église. La bienveillance, ce sont les anciens qui portent avec nous souvent nos fardeaux. La bienveillance, ce sont les mamans qui se dépensent sans compter dans l'éducation de leurs enfants et aident aussi parfois d'autres mamans. La bienveillance, c'est cette sœur, ce frère qui est tourné vers les personnes les plus nécessiteuses de notre communauté. La bienveillance, ce sont les tâches dont vous vous acquittez en coulisses pour le bon fonctionnement de l'Église. Cela vous coûte cher. Très peu de personnes sont au courant. La bienveillance, ce sont les paroles d'encouragement que vous allez prononcer ce matin à l'intention de telle ou telle sœur, de tel ou tel frère. La bienveillance, c'est également ce dont nous avons besoin pour les relations avec d'autres membres de la famille, avec nos amis, avec nos collègues, avec nos voisins, avec nos ennemis. Comprendre que la bienveillance est normale pour la vie chrétienne n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire preuve de bienveillance, de croître en bienveillance. Comment faire cela? Eh bien, est-ce que vous pourriez suivre avec moi ce matin le récit de Ruth 3? Prions ensemble. Nous lisons dans Ruth 2, verset 20, que Dieu n'abandonne pas sa bienveillance. Notre Dieu, notre Père, toi qui es suprêmement bienveillant, inculque chez nous ta bienveillance par la puissance de ta parole qui est à l'œuvre en nous qui croyons. C'est ce que nous te demandons pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le chapitre premier, Noémie est face à des problèmes majeurs. Noémie n'a pas de statut social, pas de valeur aux yeux de la société, pas de soutien économique, donc pas de nourriture et peut-être donc pas de vie. En perspective, le chapitre premier permet de savoir qu'au fond, elle n'a pas de, expression technique, de lieu de repos. Cette idée d'un lieu de repos qu'on trouve dans le livre correspond à ce que nous appellerions aujourd'hui la sécurité socio-économique. Et pour une femme dans cette société, à cette époque, ce lieu de repos ne viendrait que par la famille. Mais Noémie est veuve. Et sa belle-fille Ruth est veuve. Noémie n'a plus d'enfants, ses deux fils sont morts. Ruth n'a pas d'enfants non plus. Mais Ruth est suffisamment jeune pour trouver un mari. Et même si Noémie ne l'est pas, elle est bien suffisamment astucieuse pour jouer les entremetteuses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelque chose qui correspond à un déclic pour Noémie au chapitre 2. Elle affirme que, chapitre 2, versets 19 et 20, que l'Éternel n'a pas abandonné sa bienveillance envers les vivants et les morts. Et elle affirme cela quand, au moment où elle entend parler de Boaz. On va lire le chapitre 2 et le verset 19. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'était passé avec lui. Puis elle dit, « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boaz. » Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. Cet homme est notre proche parent. » lui dit encore Noémie, « Il est de ceux qui ont envers nous droit de rachat. » Elle semble anticiper là sur la possibilité que la bienveillance de Dieu envers sa famille puisse tourner autour de ce personnage Boaz. Et en particulier autour d'un rachat effectué par Boaz. Et en effet, il se trame quelque chose dans l'esprit de Noémie. Vous voyez ça au début de notre passage pour ce jour. Ruth, chapitre 3, verset 1er. Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. » Noémie élabore une stratégie destinée à procurer à Ruth un lieu de repos. Qu'est-ce que cette stratégie va donner pour ses problèmes à elle, à Noémie? Eh bien, suivez la logique. Trouver un lieu de repos pour Ruth va vouloir dire trouver un mari pour Ruth, certes, mais pas n'importe quel mari. Pourquoi? Parce que Ruth a fait un vœu au chapitre 1er. Je vous rappelle. Où tu iras, c'est Ruth qui parle à Noémie. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple. Et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Il ne faudrait pas imaginer un seul instant que Ruth ait l'intention de laisser sa belle-mère dans le pétrin. À ce stade du récit, on connaît le caractère de Ruth. C'est une femme de valeur, caractérisée par la bienveillance. Elle a décidé de lier intimement son avenir à celui de sa belle-mère. Pas question donc, pas question pour Ruth de trouver un mari qui soit indifférent au sort de Noémie. Autrement dit, si lieu de repos il y a pour Ruth, lieu de repos il y aura aussi pour Noémie. Et il se trouve que la manière de prendre soin de Noémie, c'est de racheter en sa faveur une parcelle de terre qui avait appartenu à feu son mari Élimélec. Nous comprendrons un peu plus pourquoi c'est le cas la semaine prochaine. Pour l'instant, sachons que ce rachat d'une parcelle de terre ne peut s'effectuer par n'importe qui. Il doit s'agir d'un proche parent de Noémie. C'est la loi. Je puise là un peu dans le chapitre 4, juste pour que nous comprenions ce lien étroit dans l'histoire entre l'idée d'un mari pour Ruth et l'idée d'un rachat. Car la clé de la recherche d'un lieu de repos réside en quelqu'un qui doit remplir plusieurs critères. En fait, avant la fin de cette histoire, nous saurons qu'il n'y a qu'une seule personne qui satisfasse à tous ces critères. Tout dépend de Boaz. Soyons au clair, Noémie est prête à jouer son va-tout dans cette recherche d'un lieu de repos pour Ruth. C'est une stratégie à haut risque. C'est une stratégie extrêmement délicate. Faire en sorte que sa belle-fille se marie avec Boaz, c'est un projet truffé de problèmes potentiels. Ruth est une employée de Boaz. Boaz est son patron. Ruth est pauvre. Boaz est riche. Ruth n'a pas de statut social. Boaz est un homme puissant et très respecté. Ruth est une étrangère et pas n'importe laquelle, une Moabite. Boaz est un Israélite. Et en plus, c'est Ruth qui va faire la demande en mariage. Quel culot! Comment Boaz va-t-il réagir à cette demande? Il est important d'abord qu'il soit bien disposé à l'idée du mariage avec Ruth. Lisons les versets 1 à 11 du chapitre 3. Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent ?» Or, lui-même doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. » Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but, et son cœur fut joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retourna. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir ou droit de rachat. » Il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Cette dernière marque de bienveillance vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Vous savez que le fait qu'on trouve tel ou tel acte dans l'Ancien Testament n'implique pas forcément que nous devrions imiter cet acte et faire la même chose nous-mêmes. À l'époque où nous sommes dans notre société, je ne conseillerais pas à une jeune femme de poursuivre des garçons au milieu de la nuit, lorsqu'il fait noir, à l'extérieur, à l'improviste, lorsqu'ils sont en train de dormir, en découvrant leurs pieds. Dans cette histoire, nous avons affaire à une autre époque, à une autre société, à d'autres coutumes. Bose est à l'extérieur durant la nuit. Pourquoi? Sans doute parce qu'il est en train de protéger la récolte des orges qu'il vient de vanner, la protéger contre le vol, vous voyez. Comment protéger la récolte? En restant proche de la récolte, même durant la nuit. L'un de mes collègues à l'Institut biblique est marié avec une gynécologue dont le cabinet de consultation se trouve dans leur maison. Plusieurs patients payent en espèces. Il y a quelques années, ils se sont fait cambrioler durant la nuit. Et depuis lors, à la fin de la journée, ils montent la caisse contenant l'argent et la déposent dans la chambre. Cela pour éviter que ce genre de vol se reproduise. C'est semblable pour Bose, il protège sa récolte en la gardant près de lui durant la nuit. Gardons-nous de tomber dans le piège de croire que les actions de Ruth étaient louches au plan moral. Je ne dis pas qu'elle ne se rende pas attirante par son parfum et par ses vêtements. Mais n'oublions pas qu'elle était pauvre et qu'elle ne possédait sans doute pas de vêtements hyper classe. Le fait de découvrir les pieds de Bose, je sais qu'il existe une interprétation qui estime que c'est un euphémisme, qui estime que c'est une manière de dire qu'ils ont eu des relations sexuelles. Mais cela est loin d'être exigé par les mots employés dans le texte et très loin de coller avec le reste des données de ce passage. L'idée que Bose ou Ruth s'adonne à un acte d'immoralité sexuelle est aux antipodes de ce que ce livre révèle quant à leur caractère intègre, bienveillant, modèle. Bose est un homme honorable, respectable, qui jouit d'une réputation favorable, qui adore Dieu. Ruth est une femme de valeur intègre, dont le caractère modèle est connu sur la place publique. Elle adore Dieu. Ce que je ne nie pas, c'est le fait que cette rencontre durant la nuit a lieu dans une atmosphère qui est connotée sexuellement. Le but est quand même de gagner le cœur de Bose pour qu'il devienne son mari. C'est quand même un sacré pari que de faire la demande à Bose. Et Ruth doit faire le maximum pour que cela réussisse. Il faudrait que Bose éprouve une certaine attirance physique pour elle. La Bible ne condamne pas ça. Mais Bose et Ruth sont restés purs au plan sexuel. Bose est en train de dormir. À mesure que la nuit avance, la température diminue. Et à un moment donné, il a froid. Pourquoi? Eh bien, parce que ses pieds sont maintenant exposés au froid. Il est réveillé par ce froid, il a un frisson. Il se rend compte de ce que quelqu'un est couché à ses pieds. Et apparemment, il ne reconnaît pas tout de suite qui c'est. C'est normal. Il est à moitié endormi. Il fait noir. On suppose qu'il ne gardait pas de lampe de poche à côté de lui. Et en plus, il n'avait pas l'habitude de voir Ruth dans ce genre de contexte. À un moment donné, cette semaine, juste pour essayer d'illustrer, je me trouvais dans la librairie qui est abritée dans le même bâtiment que l'Institut biblique, là où je travaille, la librairie chrétienne, le Bon Livre. Et j'ai croisé quelqu'un là, et je savais que je le connaissais. Et je l'ai salué. Mais j'ai eu du mal à le situer. Et puis, j'ai quitté le magasin et pourtant, tout de suite à ce moment-là, j'ai pigé. Et afin de me rattraper en quelque sorte, je suis entré à nouveau dans le magasin pour aller le voir et essayer d'avoir une conversation avec lui, ayant compris de qui il s'agissait. Bref, la réaction initiale de Bose en se réveillant, c'est normal, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ça? Qui es-tu? Verset 9. Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et tout d'un coup, le rythme cardiaque de Bose augmente sensiblement. Il est pleinement réveillé maintenant. Il vient d'entendre une demande en mariage, ce qui est en soi presque incroyable. Et en plus, il vient de l'entendre dans des circonstances on ne peut plus bizarres. Et en plus, il vient de l'entendre de la part de l'une de ses employées, une Moabite pauvre et sans statut social. Effectivement, le mieux qu'elle puisse faire, vous avez remarqué cela, c'est de se décrire comme étant la servante de Bose, deux fois dans ce verset 9. Mais Ruth est quand même astucieuse comme sa belle-mère. Elle n'a pas un beau jeu, ses circonstances jouent nettement contre elle, mais elle a quand même une carte dans sa main et elle mise tout là-dessus. Cette carte, c'est quoi? C'est le fait que Bose avait prié pour elle. Il avait prié selon les termes du chapitre 2, verset 12. Je vais lire, c'est Bose qui parle à Ruth ici. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Or, Ruth fait écho à ce langage employé là par Bose. Étant ton aile sur ta servante, même terme qu'au chapitre 2, elle. Autrement dit, Bose, tu te souviens de ce que tu as bien prié pour moi? Tu te souviens du contenu de cette prière? Tu te souviens de ce que tu as prié afin que je sois pleinement récompensé par Dieu? Tu ne pourrais pas toi-même être le moyen dont Dieu se servirait pour exaucer ta propre prière? On pourrait se marier et du fait des liens avec ma belle-mère, je dois te demander par la même occasion de racheter le champ. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Étends ton aile. Ce n'est pas le langage que nous utiliserions aujourd'hui. Je ne sais pas si tu confirmes, Rodrigo, que Pauline n'a pas dit « étends ton aile sur moi » il y a quelques mois. Mais dans l'Ancien Testament, cette expression « étendre l'aile sur quelqu'un » est employée en rapport avec le mariage. Qu'est-ce que Bose va dire à titre de réponse? Il pourrait dire oui, j'avoue que j'approuve une certaine attirance physique pour toi. Tu es assez mignonne. Ça me coûterait cher d'épouser une étrangère pauvre et sans statut. Mais sur le principe, je ne serais pas fermé à cette possibilité de t'épouser. Mais, la belle-mère dans tout ça. Franchement, c'est un boulet que tu traînes avec toi. Acheter un champ, c'est pousser un peu loin quand même. Mais en fait, non. La sollicitude de Ruth à l'égard de sa belle-mère ne fait que rendre Ruth plus attirante aux yeux de Boaz. En effet, Ruth aurait pu choisir un jeune homme comme mari et non pas Boaz, ce célibataire entre deux âges. Elle aurait pu rompre le contrat avec sa belle-mère. Mais Ruth est quelqu'un de fidèle et de bienveillant. Et cela la rend attirante aux yeux de Boaz. Écoutez la réponse de Boaz, verset 10. Il dit, « Sois béni de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de bienveillance vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » Verset 11, « Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. » Boaz est bien disposé à l'idée du mariage avec Ruth, et certainement pas uniquement en raison d'une attirance physique, il est attiré surtout par la bienveillance de cette femme de valeur. La clé de la recherche d'un lieu de repos réside en quelqu'un qui soit bien disposé à l'idée du mariage avec Ruth, deuxièmement, en quelqu'un qui soit qualifié pour effectuer le rachat du champ de Noémie. Il doit avoir suffisamment d'argent. Et c'est le cas. Selon le chapitre 2, il est riche. Mais en plus, il faudrait que la personne qui rachète le champ soit un parent proche de Noémie. Ça semble être la loi. Je vous renvoie à Lévitique 25 et à la prédication de la semaine prochaine. Or, en Belgique, il y a un marché libre en matière d'immobilier. Mais ce n'était pas le cas en Israël. Racheter cette parcelle de terre qui avait appartenu à Elimelech ne pouvait pas s'effectuer par n'importe qui. Boaz a ce droit de rachat, nous voyons ça dans le verset 9 et dans le verset 12. Mais il y a un hic. Boaz n'est pas le parent le plus proche de Noémie, étant en mesure de racheter la parcelle de terre en question. Il existe quelqu'un d'autre qui a un lien de parenté plus proche de Noémie. Et selon la loi, ce parent plus proche doit avoir le premier refus, le droit de préemption dans cette affaire. Et ça pose problème, car cette autre personne risque de faire capoter le projet tout entier de Noémie. Et combien la démarche de Boaz est frappante donc. Nous savons à ce stade qu'il est intéressé par l'idée du mariage avec Ruth. Nous savons que ce mariage est indissolublement lié au rachat de la parcelle de terre. Nous savons que Boaz est en mesure de racheter cette parcelle de terre et de conclure l'affaire. Mais le récit met en lumière son intégrité. Il ne va pas balayer la loi de Dieu sous le tapis. Il y a quelques années, un frère a entrepris des études poussées de la parole de Dieu. Mais il avait du mal à se focaliser sur ses études parce qu'il avait beaucoup de soucis. Sa façon de gérer ses soucis, c'était de se rendre ivre, éliminer les soucis par l'alcool. afin de pouvoir fixer son attention sur le texte biblique, sans distraction. Étudier la Bible, c'est excellent. Mais cela ne justifie pas l'ivresse qui est interdite par la Bible elle-même. La fin ne justifie pas les moyens. Boaz ne va pas épouser Ruth au prix de la désobéissance à Dieu. Il doit donc accorder à cet autre parent la possibilité de racheter la terre. Lisons les versets 12 à 14. Maintenant, il est vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Au matin, s'il veut s'acquitter de son droit de rachat envers moi, toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Verset 14, elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Boaz se dit, qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Vous voyez, Boaz est un homme intègre. Il reste soumis à la volonté de Dieu à chaque étape. Et il tient à être irréprochable aux yeux de tous. Fin du verset 14, qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Pourquoi? Parce que sinon, les uns et les autres auraient risqué d'imaginer qu'ils avaient eu des relations sexuelles. La clé de la recherche d'un lieu de repos réside en quelqu'un qui soit bien disposé à l'idée du mariage avec Ruth, en quelqu'un qui soit qualifié pour effectuer le rachat du champ. Troisièmement, en quelqu'un qui soit généreux. Oh, ne sous-estimons pas le prix financier que cela entraîne pour Boaz. Racheter une parcelle de terre, ce n'est pas rien. Imaginez qu'au moment d'épouser Katerina, Samuel, qui préside aujourd'hui, avait été obligé d'acheter une maison en Italie pour les parents de Katerina. Il aurait sans doute fait, parce que c'est un homme généreux, s'il avait eu les moyens de le faire. Boaz est un homme généreux. Et en l'absence de cette caractéristique, il ne serait pas possible d'envisager la perspective d'un lieu de repos pour Ruth, encore moins un lieu de repos pour Noémie. Mais le récit souligne la bienveillance de Boaz, la générosité de Boaz. Lisons les versets 15 à 17. Il dit alors, « Tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. » C'est ce qu'elle fit. Et mesura 6 mesures d'orge dont il la chargea, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Noémie dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Elle m'a donné ces 6 mesures d'orge en me disant, « Ne retourne pas à vide vers ta belle-mère. » Voilà que Boaz pense à Noémie et fait preuve d'une générosité remarquable. Il prodigue à Noémie de la nourriture correspondant à plusieurs jours de repas. C'est comme si Noémie recevait un gage de la part de Boaz. Elle commence à être optimiste pour que son projet aboutisse, pour que l'affaire soit conclue, pour que Ruth jouissent d'un lieu de repos. Et en effet, dernier critère, la clé de la recherche d'un lieu de repos réside en quelqu'un qui soit résolu dans son engagement. C'est le verset 18. Noémie dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Si possible, autant que cela dépend de lui, Boaz ne décevra pas. Si nécessaire, il se pliera en quatre. Comment va-t-il réussir à faire le court-circuit de l'autre parent, celui qui est plus proche, dans les plus brefs délais, sans compromettre la loi de Dieu? À ce stade, on ne sait même pas s'il y parviendra. Pour l'instant, qu'il suffise de dire qu'il est résolu dans son engagement. Il fera le maximum. Il mettra tout en œuvre pour surmonter les obstacles qui risquent de se dresser devant cette série d'opérations compliquées. Relisons le verset 13. Passe ici la nuit, au matin. S'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui paie pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que l'histoire de Noémie est en un sens notre histoire. Il nous fallait à nous aussi trouver un lieu de repos, la délivrance face au péché, à la mort, à l'enfer. Et la clé de la recherche d'un lieu de repos pour nous a résidé en quelqu'un qui devait remplir plusieurs critères. Ça ne pouvait pas être n'importe qui. Il fallait que la personne soit un homme bien disposé à l'idée du mariage avec nous, avec des pécheurs misérables. Il fallait que la personne soit en mesure de nous racheter, quelqu'un de qualifié comme parent proche, un être humain comme nous, mais un être humain intègre, parfait, qualifié pour le rachat. Il fallait que la personne soit généreuse et d'une bienveillance exceptionnelle, prête à payer le prix du rachat. Il fallait que la personne soit résolue, décidée à tout mettre en œuvre pour permettre le mariage avec nous et le rachat. Il fallait que cette personne soit prête à payer de son propre sang le prix le plus élevé. Il n'y a pas 36 personnes qui satisfassent à tous ces critères. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui satisfasse à tous ces critères. La clé de la recherche d'un lieu de repos a résidé pour nous en celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Il avait le droit de rachat. Et il l'a exercé en notre faveur. Et le rachat vaut pour quiconque prend sur lui son joug et place sa confiance en lui. Il a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes provenant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Il nous a rachetés de la malédiction qu'entraîne notre rébellion contre Dieu, étant devenu malédiction pour nous. Et du coup, nous jouissons non seulement du repos pour nos âmes maintenant, mais encore de la perspective d'un repos éternel dans un nouveau cosmos parfait, exempt de péché. Quelle bienveillance manifestée par Jésus-Christ dans sa mort sur la croix. Et quelque chose se passe lorsque nous fixons nos regards sur lui. L'apôtre Paul explique ce qui se passe en 2 Corinthiens 3. Plus nous contemplons la bienveillance glorieuse de notre Seigneur, plus nous sommes transfigurés à cette même image de gloire en gloire. Nous grandissons ainsi en bienveillance dans notre vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous.